J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que notre société contemporaine s'attire le jugement de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner tout un avertissement en réponse à notre question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs questions à poser au livre d'Ésaïe aujourd'hui, alors les voici sans plus tarder. Pourquoi est-ce que les Juifs se rassemblent encore au mur des Lamentations? Est-ce que le salut provient d'un programme, d'une religion ou d'une personne? Est-ce que les croyants peuvent être de bons ambassadeurs de Jésus-Christ quand ils ne sont pas dans la joie? Quelle est la raison principale pour les croyants de louer Dieu? Est-ce que tout ce que Dieu fait est bon? Qu'est-ce qui prouve qu'Ésaïe était un véritable prophète? Que signifie l'expression « être saint » Est-ce que notre société contemporaine s'attire le jugement de Dieu? Est-ce que ceux qui refusent le salut de Dieu échapperont au châtiment? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre vie soit transformée? Demeurez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce que le Seigneur dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu as la réponse à toutes nos questions. On veut apprendre de toi aujourd'hui. On est à tes pieds et on veut que tu nous instruises toi-même par la bouche de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous à retenir et à pratiquer ce que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le chiffre 7 symbolisait non la perfection, mais la plénitude, la totalité et l'intégralité. Nous avons examiné les 7 caractéristiques de l'Esprit. Jésus-Christ possédait l'Esprit sans mesure. Il marchait selon la puissance de l'Esprit qui reposait sur lui. L'Esprit de sagesse est le seul qui peut nous guider dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Nous avons aussi besoin de l'Esprit d'intelligence afin de comprendre la Bible et d'avoir du discernement. L'Esprit est aussi un esprit de conseil. Notre Dieu trinitaire n'a jamais demandé conseil à qui que ce soit. Par contre, dans les psaumes, nous notons que ceux qui consultent Dieu éprouvent de la reconnaissance envers lui. Nous avons aussi besoin de l'esprit de force ou de puissance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Finalement, nous pouvons obtenir l'esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel en étudiant sérieusement la Bible. De plus, nous vous avons rappelé que nous devrons comparaître devant le Seigneur Jésus. Il ne jugera pas selon les apparences, mais selon nos actions et nos motifs. Là où le Seigneur Jésus règne, il y a la paix. Il a aboli le mur de séparation entre les Juifs et les païens lorsqu'il est venu la première fois. En effet, les véritables croyants se rallient autour du Seigneur Jésus. Pendant le millénium, Jésus abolira les murs de séparation. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du chapitre 12. Ce chapitre complète la série de prophéties faites pendant le règne du roi Achaz, un mauvais roi qui a régné sur Juda. La série de prophéties débute avec le jugement de Dieu sur son peuple. Et au chapitre 11, nous avons vu que le Seigneur Jésus règnera personnellement sur son royaume établi sur la terre. Au chapitre 12, nous atteignons le point culminant. La grande tribulation est terminée et les tempêtes de la vie sont toutes calmées. Le Seigneur Jésus a établi son royaume sur terre et Israël en fait partie. Les Juifs adorent Dieu et le louent. Israël se rassemble au temple et non au mur des Lamentations. Si le retour d'Israël aujourd'hui était véritablement un accomplissement des prophéties, les Juifs ne se rassembleraient pas au mur des Lamentations. Louez-vous Dieu parce qu'il vous a racheté et sauvé? Ce petit chapitre est un psaume, c'est un chef-d'œuvre poétique. Nous voyons un peuple qui loue son Dieu sous le règne personnel de Jésus-Christ. Un peuple racheté et sauvé loue son Dieu. La terre n'est plus maudite, et la bonté de Dieu se voit dans sa création. Nous n'avons pas encore vu un endroit si paradisiaque, car la terre est présentement maudite à cause de la chute de l'homme. Cependant, la création sera restaurée sous le règne de Jésus-Christ. Chers amis, débutons la lecture d'Ésaïe chapitre 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Nous avons encore l'expression « ce jour-là » qui s'applique à la grande tribulation et à l'arrivée du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Ce verset nous dit que la période sombre sous le règne du péché est terminée et que le jour du salut est arrivé. Israël a passé à travers la période ténébreuse de la grande tribulation et la lumière est maintenant venue. Maintenant, c'est la vie paisible et sereine du royaume millénaire. C'est une raison de louer Dieu. Une joie sans frein dominera pendant le millénium. Verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le salut, le pardon et la délivrance du péché sont une personne. Notez que le peuple ne dira pas que Dieu leur a procuré un salut, mais qu'il est leur salut ou leur délivrance. Le salut, le pardon et la délivrance du péché sont une personne, non un programme, non une confession religieuse ou des rituels liturgiques. Le salut est une personne, soit l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu le loue pour sa délivrance ou son salut. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Sans la joie de Dieu, nous sommes de mauvais ambassadeurs. Les sources sont le symbole de l'abondance. Le salut du Seigneur Jésus comble le cœur des siens et les remplit de joie. Le règne millénaire sera une période de grande joie, et c'est ce que Dieu désire pour les siens. Il veut que nous soyons heureux présentement. Notre salut devrait nous donner des cœurs remplis de louanges et de chansons pour le Seigneur. Sans cette joie que le Seigneur Jésus nous procure, nous ne sommes pas de véritables ambassadeurs de Jésus-Christ. Ésaïe 12, verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Louez l'Éternel. Ce jour-là est le millénium. Le jour du Seigneur s'est ouvert avec la nuit sombre du péché, et maintenant nous sommes dans la lumière du jour. Dans la culture juive, la nouvelle journée débutait avec le coucher du soleil, contrairement à notre culture où la journée débute avec le lever du soleil. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le psaume 30, verset 5. Le millénium est le matin qui se déroule dans l'allégresse, et il est aussi un temps de gratitude envers Dieu pour son salut. C'est aussi un temps de gratitude pour qui il est, le Créateur. Les œuvres puissantes et grandioses du Seigneur, ainsi que la grandeur de son nom, doivent être rappelées au peuple. Les œuvres du Seigneur ne comprennent pas seulement la création de l'univers, mais aussi tout ce qu'il a fait d'autre, dont la gouvernance de la terre et de son univers. Et vous direz, en ce jour-là, louez l'Éternel. Cependant, nous avons déjà de nombreuses raisons de louer notre Dieu qui a commencé son œuvre salvatrice en envoyant son Fils à la croix à notre place et qui ne demande qu'à guider nos vies et de nous libérer de la puissance du péché. Verset 5 d'Ésaïe 12. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a fait de grandes choses. Lorsque les 6 jours de rénovation et de création ont été terminés, Dieu a regardé sa création et il a dit que tout était bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse, chapitre 1, verset 31. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous pouvons le remercier pour un salut complet et parfait, ainsi que pour sa création. Bien que la terre ait été maudite au moment de la chute de l'homme, la planète est encore très belle. Je ne peux m'imaginer toute sa splendeur lorsqu'elle sera rachetée et qu'elle ne sera plus maudite. Ce ne sont pas les raisons de louer Dieu qui manqueront. Verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu, nos exclamations de joie et d'allégresse. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. Aujourd'hui, nous parlons de consécration chrétienne, mais je ne pense pas que nous sachions ce que c'est vraiment. Le peuple de Dieu le sera dans cette période glorieuse. Nous passons maintenant au chapitre 13, qui débute une section entièrement différente. Le ton du texte change immédiatement. Les chapitres 13 à 23 contiennent des prophéties ou des oracles qui annoncent des jugements sur 9 nations avoisinantes d'Israël. Ces oracles sont des jugements de Dieu sur ces 9 nations. Nous sommes rendus à un passage intéressant, car la plupart des prophéties sont déjà accomplies. Aujourd'hui, elles sont des faits historiques. Ces nations avaient des contacts avec Israël, et plusieurs d'entre elles avaient une frontière commune avec Israël. Israël a souffert aux mains de certaines de ces nations. Elle souffrira encore de la main de ses voisins dans l'avenir. Les prophéties accomplies prouvent qu'Ésaïe est un véritable prophète. Vous reconnaîtrez des noms dans ce chapitre, dont l'Égypte entre autres. Bien que certains de ces jugements auront lieu dans l'avenir, la plupart ont déjà été exécutés, ce qui prouve que les autres prophéties s'accompliront et qu'Ésaïe est un véritable prophète de Dieu. Ces prophéties, devenues faits historiques, créent un intérêt pour les 11 prochains chapitres, puisqu'ils deviennent importants. Dans cette section, ce n'est plus la Syrie qui est l'oppresseur dont les prophéties sont l'objet. Un groupe de nations avec Babylone à leur tête est devenu la nouvelle puissance mondiale. Ésaïe ne trouvait pas que livrer ses messages était une tâche plaisante. Il ne se faisait pas d'amis, et cela ne lui donnait pas d'influence auprès des grands de son temps. Cependant, les prophéties de Dieu ne participaient pas à un concours de popularité. Ils n'avaient pas besoin de se faire réélire pour conserver leur fonction. Babylone est l'objet du premier oracle. Premièrement, Ésaïe prophétise au sujet de la ville qui existait pendant son temps. Les prophéties s'adressent d'abord à cette ville. Ce qui est extraordinaire, c'est que du vivant d'Ésaïe, Babylone était une ville sans importance. C'est un siècle plus tard que la ville est devenue une puissance mondiale. Dieu a prononcé un jugement sur Babylone avant qu'elle devienne une nation. Cette section ne se termine pas avec les oracles sur les 9 nations, mais se poursuit avec 6 malédictions dans les chapitres 28 à 32. Au chapitre 33 et 34, c'est le calme qui suit la tempête. Nous y trouvons une description du millénium. Au chapitre 13, nous voyons Babylone châtiée au jour du Seigneur. Ces prophéties verront leur accomplissement final pendant la grande tribulation. Chers amis, débutons notre lecture d'Ésaïe chapitre 13, en lisant le verset 1. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Dans les chapitres 13 et 14, nous parlons de l'ancienne ville de Babylone qui a existé au temps d'Ésaïe et qui plus tard amènera Jérusalem en captivité. Babylone devint l'une des premières grandes puissances mondiales et le prophète Daniel l'a reconnue. Nébuchadnezzar, le roi babylonien qui s'empara de Jérusalem, était la tête d'or de la statue de la vision de Daniel. Il était le roi de la première grande puissance mondiale de cette région. Babylone est le symbole d'une alliance rebelle contre Dieu. Cette rébellion a débuté avec la tour de Babel, et elle se terminera avec les événements que nous annoncent les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Dans ces chapitres, la Babylone religieuse et la Babylone politique régnera sur le monde. Dieu jugera cette ville pendant la grande tribulation. C'est la première mention de cette ville dans l'Ancien Testament. Ésaïe 13, verset 3. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Être saint, c'est être mis à part pour servir Dieu. Dans ce verset, le mot « sainte » signifie « mis à part » pour servir Dieu. Celui-ci a aussi appelé les héros de ma colère. Il s'est réservé l'armée babylonienne pour accomplir une tâche spécifique. C'est ce qu'il avait fait avec l'Assyrie. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a dit « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Dieu s'est servi de l'Assyrie pour châtier son peuple, et ensuite il a jugé l'Assyrie, parce qu'elle a agi avec un mauvais motif. C'est ce que Dieu fera avec Babylone. Toute personne ou toute chose que Dieu se réserve ou met à part pour son service peut s'appeler sanctifiée ou sainte. Dieu avait réservé l'Assyrie et Babylone pour châtier son peuple. Les deux nations ont été des instruments dans les mains de Dieu pour accomplir le plan divin. Verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ce verset explique ce qu'est une nation ou une armée sanctifiée. Babylone montera contre le royaume de Juda et réduira la nation à la captivité. Verset 5. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. La nation sera l'instrument de la colère de Dieu. Il s'en servira pour châtier le royaume de Juda. Verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Maintenant, le prophète Ésaïe lève les yeux vers la grande tribulation qui est très lointaine à ce moment-là. Ésaïe 13, versets 7 à 9. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Pendant la grande tribulation, Dieu utilisera de nouveau la puissance appelée Babylone pour châtier son peuple, tout comme il l'a fait autrefois. Les hommes seront découragés et ils se tordront comme une femme en travail. Le verset suivant identifie la grande tribulation, verset 10. « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Le Seigneur répète cette prophétie dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 29. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Dans l'Apocalypse, nous lisons « Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. » Apocalypse 8, verset 12. Revenons à Ésaïe, lisons chapitre 13, verset 11. « Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. » Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je punirai le monde pour sa malice. Notre monde est aussi méchant qu'à l'époque d'Ésaïe et de Babylone. Notre société contemporaine s'attire aussi le jugement de Dieu. Verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que leur fin. Je les rendrai plus rares que leur d'Ophir. Le jugement sera si sévère qu'il ne restera que peu de juifs. Les versets 13 à 16 nous disent que la grande tribulation sera une période de destruction mondiale. En fait, la situation sera si terrible qu'aucune chair ne survivrait si Dieu n'avait pas décidé de préserver un reste pour lui. Versets 13 à 16 d'Ésaïe 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Dieu jugera le monde sévèrement. Certaines personnes voient Dieu comme un être bonasse, qui aime tout le monde et qui nous pardonnera tous. C'est faux. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Citation de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu nous aime, et c'est pour cette raison qu'il nous propose un moyen de salut. Ceux qui refusent cette voie de salut demeurent sous la colère de Dieu, qui devra les punir dans sa sainteté et sa justice. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Dieu veut transformer votre vie. Dieu vous propose de vous réconcilier avec lui. Acceptez son Fils comme sauveur personnel, et il vous donnera son esprit afin que vous ayez la puissance nécessaire pour marcher dans ses voies. Son esprit vous transformera à l'image de son Fils. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Romains chapitre 8, les versets 28 et 29. Dieu s'est engagé à transformer le cœur de ceux qui viendraient à lui. Il le fait gratuitement, car son Fils a donné sa vie en rançon pour nous. Il nous a acquis toutes ses bénédictions. Nous n'avons qu'à les réclamer par la foi. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Revenons à Ésaïe, chapitre 13, lisons le verset 17. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. Qui sont les Mèdes? Une nation qui s'était alliée aux Perses, et les deux réunis sont devenus un empire qui a écrasé Babylone. Ésaïe parle de ce qui se produira dans un avenir rapproché. Il identifie la nation qui détruira Babylone. Sautons au verset 19 d'Ésaïe 13. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fièvre parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. » Cette prophétie a été accomplie. Babylone était un des grands empires qui avaient existé jusque-là sur la terre. La ville était exceptionnellement splendide. Dieu l'appelle l'ornement des royaumes. Dieu détruisit la ville, et elle n'a jamais été reconstruite. De grandes villes ont été reconstruites au cours de l'histoire. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant le prophète Ésaïe, chapitre 13, verset 19, à chapitre 14, verset 14. Bonne lecture!
Merci, Régent. Mes amis, le livre d'Ésaïe est tellement riche en instructions pour nous aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Entre autres, on a bien vu aujourd'hui que sans la joie de Dieu, nous, les croyants, sommes de mauvais ambassadeurs de Jésus-Christ. Ça me fait penser à chaque fois que je fais une sortie dans la ville où j'habite, soit pour faire l'épicerie ou pour quelque rendez-vous. Dès que je suis dans mon auto, je demande à Dieu de me protéger et je lui demande de m'aider à être un bon témoin pour lui. Je sais que je vais rencontrer toutes sortes de personnes, des commis, des secrétaires, des caissières, des professionnels, des hommes, des femmes d'affaires. Je connais très peu de gens que je vais rencontrer, mais Dieu les connaît, par exemple. Et le moyen qu'il a décidé de prendre pour se faire connaître à eux, eh bien, c'est moi. C'est toi aussi, bien sûr. Et un jour, dans ta vie, tu es devenu un enfant de Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu veut se servir de toi pour se faire connaître aux gens. Et je suis convaincu que ce que les gens ont besoin de recevoir de nous, les croyants, c'est l'amour. Et c'est de voir des chrétiens authentiquement joyeux. Donc, quand je sors et quand je sais que je vais rencontrer des gens, je demande à Dieu de me remplir de sa joie, afin que ma vie puisse attirer ces personnes à lui. Bien sûr, il m'arrive d'avoir le cœur triste pour une raison ou pour une autre, mais j'ai la connaissance de la parole de Dieu pour me ramener dans la joie. Dans le chapitre 24 du livre des Psaumes, au verset 6, David dit ceci en parlant du Seigneur. Il dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Et je me mets à penser à ses promesses. Elles sont tellement nombreuses. Aussi, je pense à tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je lui appartiens et même avant que je lui appartienne. Ses bienfaits sont tellement nombreux. Et je pense à la joie que j'aurai aujourd'hui même de pouvoir offrir un sourire à un cœur abattu, à une personne qui est seule, sans Dieu dans le monde. Alors, quelle joie, mes amis, d'arriver à une caisse au supermarché et de voir une caissière qui s'efforce de sourire, mais qui a le regard abattu, et de pouvoir lui sourire, lui dire quelques mots tels que, je sais pas moi, je trouve ça épatant que vous soyez aussi habile à utiliser cette caisse munie d'un système aussi complexe. Je doute que je serais capable d'en faire autant. Et voilà que cette femme se met à me parler d'elle. Elle est touchée du fait que quelqu'un s'intéresse authentiquement à elle. Et la fois suivante, la relation est déjà établie pour qu'elle engage une courte conversation avec moi. Et ça va de fil en aiguille. Je n'oublie pas que cette personne peut être une candidate pour le royaume de Dieu, une future enfant de Dieu qui héritera du ciel avec moi. Alors mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, je t'encourage à être un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus-Christ. Il y a plein d'âmes languissantes autour de nous et Dieu veut les attirer à lui. Son moyen, eh bien, c'est nous. Et toi, mon ami, toi qui n'es pas encore un enfant de Dieu, aimerais-tu le devenir? Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui croient à la parole, c'est-à-dire à Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu pourrais devenir un enfant de Dieu en ce moment. Reconnais-tu un pécheur? Repens-toi. Et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire. Jésus t'aime, tu sais.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.